Emmanuel Moreau. Chut! On lit, on lit ce matin en silence, c'est ça?
C'est assez incroyable, effectivement, Hélène, cette histoire. L'association Silence au lit demande aux établissements scolaires d'organiser dans la journée une pause de 10 à 20 minutes. Pendant ce laps de temps, tout le monde, les élèves, les professeurs, l'administration, sort un livre de sa poche et se met à lire. On lit ce que l'on veut, mais il y a une consigne impérative à respecter, on doit entendre les mouches voler. La lecture a lieu dans le silence. Olivier Delahaye, vice-président de l'association Silence, on lit.
Contrairement à ce qu'on peut supposer, ce silence vient immédiatement. Il y a dans le silence que l'on fait soi-même une démarche vers l'intériorité dont on a tous besoin. Et puis il y a dans le silence qui est respecté comme ça par tout un établissement, quelque chose de rituel qui s'établit. Et ça marche très facilement. Très souvent, les professeurs nous disent « Mais vous savez, nous, on a des élèves agités, on va avoir du mal, etc. » Et puis les retours qu'on a, en fait, quelques semaines après, c'est incroyable. Dès la deuxième, la troisième fois, ça a marché. Et ce qui est merveilleux, en fait, dans cette pratique, c'est que c'est une lecture libre. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'interrogation. On lit absolument ce que l'on veut, à condition que ce soit un livre. Ça peut être de la littérature, des romans, ça peut être des essais, ça peut être de la BD. C'est pas des journaux, c'est pas des magazines, c'est-à-dire que c'est pas des séquences rapides. On est dans un monde où tout est trop fragmenté, trop segmenté en séquences courtes. Et là, on se donne le temps, en fait, de suivre la pensée d'un auteur ou la fantaisie d'un auteur pendant un quart d'heure, mais en fait pendant beaucoup plus longtemps, puisqu'on garde ce livre avec soi et qu'on va le lire.
Bon, et cette idée lui est venue comment à Olivier Delahaye ?
Eh bien, il a découvert ce concept il y a 2 ans au cours d'une visite dans un établissement scolaire d'Ankara en Turquie, où la lecture en silence existe depuis 15 ans.
C'était à 13h35. J'étais dans une salle de professeurs, il y avait 10 profs qui étaient là, et je vois 10 personnes qui plongent dans leur cartable, qui sortent un bouquin et qui se mettent à lire. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, bah, c'est notre temps de lecture, comme si... bah, oui, évidemment. Alors je dis, pardon. Bah, oui, tous les jours on lit. Ah bon? Oui, tout le monde. Ah, bah, je peux aller voir? Ouais, vas-y. Je sors, et là, donc, c'est un établissement assez grand, hein, il y a 2000 élèves. Silence, mais absolu. Pas un bruit. Dans les classes, tout le monde était assis un peu n'importe comment, que ce soit les élèves, les professeurs, il y en avait qui étaient par terre, d'autres... Et tout le monde lisait. Et il y avait un tel recueillement, un tel... Mais c'était absolument extraordinaire. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Le soir, j'en ai parlé avec la directrice, dont tout ce qu'elle m'a dit sur ce qu'ils avaient fait n'a fait que me séduire et je n'ai fait que transmettre ça. Et donc, on parlait après avec Daniel Salnav et c'est cette expérience merveilleuse qu'on essaye de transmettre.
Silence on lit a reçu le soutien du ministère d'Éducation nationale qui veut redonner le goût de la lecture. À Paris, déjà 30 établissements l'appliquent. D'autres académies comme par exemple Metz et Aix et d'autres encore ont décidé de suivre.
Chut, on réfléchit. Merci Emmanuel Moreau.
À demain.
À demain.
France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7.
Il est 6h21. Bonjour Stéphane Gatignon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Sevran en Seine-Saint-Denis depuis 16 ans. Aujourd'hui à Grigny dans l'Essonne, ce sont les états généraux de la politique de la ville. Emmanuel Macron, dans sa première grande interview télé hier soir, a dit qu'il avait entendu le cri d'alarme des maires de banlieue et qu'il vous recevrait satisfait.
On va voir. Ça, vous savez, ma petite expérience, pas courte, mais me fait penser qu'il faut discuter beaucoup, convaincre, voir les choses, et puis surtout, y compris de la part du président, même si c'est important ce premier geste, mais voilà, on va voir ce qu'il va dire, ce qu'il va faire derrière, et c'est aux actes qu'on juge les gens et les paroles.
Vous allez lui dire quoi, Emmanuel Macron, quand il va vous recevoir? Quelles sont les propositions qui sont
mais
sur la table?
On va lui dire déjà un peu le constat général fait. Vous savez, on est... Il y a plusieurs associations de maires, hein, puisqu'il y a Ville et Banlieue, il y a l'Association des maires de France, Ville Moyenne, il y a des maires un peu plus individuels comme moi par exemple. Voilà, il y a un constat d'une situation dans les territoires à la fois de banlieue, à la fois des zones périurbaines, etc., qui est extrêmement douloureux, difficile, qui a été fait, qui s'est enclenché, si vous voulez, cet été avec l'annonce de la fin des contrats aidés, qui pose énormément de problèmes à la fois des collectivités locales, mais aussi à beaucoup d'associations hein, qui vivent aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, le mouvement sportif en France, alors pas les équipes nationales, mais le vrai mouvement sportif en bas, tous les week-ends, les matchs qui se font, les compétitions et tout, il y a beaucoup de soutien, des contrats aidés là.
Et on connaît l'ampleur du tissu social.
Et dire
sport,
on arrête, ça veut dire tout, il se passe plus rien, alors qu'on prépare les JO. Enfin, tout ça est assez étonnant. Donc voilà, dans ce qu'on attend, c'est qu'ils parlent, évidemment, ils disent par rapport aux... notamment contrat aidé, voilà, on voit les choses autrement. On ne les arrête pas, notamment sur tous les contrats aidés, les 54 000 qui sont en zone prioritaire en France, plus ceux du mouvement sportif, parce que c'est important, c'est ça le lien social aussi. On attend qu'ils fassent des avancées aussi sur les questions de dotation, notamment pour les villes les plus fragiles. Et là, il y a le débat très concrètement, hein, en ce moment à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2018. On demande à ce qu'il y ait un effort de fait sur les villes les plus fragiles en France. Tout ça est ciblé, simplement 100 millions d'euros sur les 50 villes les plus fragiles en DSU. C'est des choses qui sont pas compliquées. On demande aussi que il s'est adressé aux maires hier. Il a dit « je vous ai entendu ». En lisant le journal ce matin, j'ai entendu la demande des maires, je vais les recevoir, etc. C'est bien, c'est une première chose. Mais je voudrais aussi qu'il s'adresse aux habitants, qu'il s'adresse aux jeunes, parce que c'est des territoires extrêmement jeunes. Donc il faut redonner confiance à tout ça, parce que c'est la France de demain qui se construit là. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et puis aussi qu'il nous voit pas, et que la société, que la nation, parce qu'il représente aussi la nation, c'est le premier, mais c'est toute la nation qui est concernée. C'est-à-dire les forces sociales, les syndicats qui gèrent la CAF, qui gèrent d'autres choses et qui ont un impact là, c'est de dire aussi, on n'est plus seulement dans la réparation, mais on va soutenir aussi l'innovation, tous les projets, tout ce qui se crée dans nos territoires. Et ça, je crois que c'est aussi très important.
Vous parliez donc des contrats aidés. Il y a aussi le budget de la politique de la ville, hein, qui est en baisse, ouais. Amputé cet été de plus de 46 millions d'euros. Je crois que pour vous, à Sevran, c'est plus de 60 000 euros en moins.
En Seine-Saint-Denis, c'est 2 millions d'euros en moins coupés cet été, hein, avec des choses qui ont déjà été enclenchées, faites, donc que les communes, que les territoires ont payé, qui n'ont pas été, qui ne sont plus payés du coup par l'État.
Vous vous en sortez à Sevran, en Seine-Saint-Denis?
C'est difficile. C'est de plus en plus difficile, les restrictions budgétaires. Et puis c'est très difficile aussi aujourd'hui. Par exemple, nous, on a de plus en plus de mal à avoir recours à l'emprunt aux banques pour pouvoir faire les investissements qui vont dans les écoles. La bonne mesure du gouvernement de cet été, c'est le dédoublement, par exemple, dans les zones REP+, des CP. Mais tout ça, ça veut dire dédoublement. Il a fallu faire des travaux parce que c'est beaucoup chez nous, etc., etc. Donc si vous voulez, tout cela est difficile et aujourd'hui on est sur un point on est quasi à un point de rupture, à la fois en termes de gestion pour les maires, et c'est ce qu'on dit, et puis aussi dans la société, aussi les gens qui sont en bas, ils demandent certainement autre chose et d'autres messages de la part du gouvernement.
Vous diriez, Stéphane Gatignon, comme le maire d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, que la banlieue a été la variable d'ajustement des contraintes budgétaires?
Je crois beaucoup, en tout cas, je crois que je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit le maire d'Hérouville, mais je crois, voilà, c'est plus un, pour beaucoup, c'est plus un sujet pour des simples raisons, c'est-à-dire que je vois les gens qui sont dans les gouvernements, les gens qui pèsent aujourd'hui, ne viennent pas de chez nous, ne viennent pas de ces territoires, alors qu'aujourd'hui, énormément de monde dans l'économie, en sport, la culture, dans ce qui bouge, vient de chez nous, et ça c'est important. Je pense qu'il faut faire attention à une vraie rupture qui existe aujourd'hui dans le pays et qui peut être très dure dans les années à venir.
Emmanuel Macron, c'est l'ouverture. Son mouvement est une sorte de mai 68, un peu bon chic, bon genre, utile, sérieux, un mouvement qui peut fédérer. Ce sont vos mots pendant la campagne, Stéphane Gatignon. Vous le pensez toujours aujourd'hui?
Je le pense toujours. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour le faire. Je pense que Macron a rompu tout un tas de choses qui pouvaient plus durer en France, notamment dans les partis, dans ce qu'on connaissait traditionnellement. Maintenant, je pense qu'il faut aller... Et je pense que notamment son début de campagne en banlieue a été très fort. Il a marqué aussi, il a redonné confiance à certains jeunes et tout. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'il renoue un peu avec ça et qu'il ouvre vraiment et qu'il permette d'ouvrir la société française simplement aux gens de banlieue parce que les talents sont là.
Donc vous restez pro-Macron?
C'est pas une question d'être pro ou anti, vous savez, moi j'ai soutenu Hollande et après j'ai fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. C'est pas du tout ça. Moi je juge aux actes et je pense que voilà, on est des hommes politiques, il faut répondre aux questions de la société, il faut avancer. Voilà, et je juge uniquement là-dessus.
Stéphane Gatignon, maire de Sevran, merci d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation. On reparle de ces états généraux de la ville à 8h10. On verra avec Léa Salamé ce qu'en pense son invité, Julien Denormandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci encore Stéphane Gatignon.
Merci madame.